Indochine sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 13h. Éric Lefebvre est conservateur du patrimoine, responsable des collections chinoises au musée Cernouski et commissaire de l'exposition L'école de Shanghai 1840-1920, peinture et calligraphie du musée de Shanghai, que l'on peut voir au musée Cernouski à Paris jusqu'au 30 juin 2013. On écoute Éric Lefebvre. Éric Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui a donné à ces artistes l'appellation École de Shanghai ?
L'appellation École de Shanghai est apparue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. En chinois, il s'agit de Haipai. Et au départ, c'était une appellation qui était une appellation négative, une appellation péjorative inventée par les amateurs de théâtre de Pékin, d'abord pour désigner l'opéra tel qu'il était pratiqué à Shanghai. Et puis, ensuite, elle a été réutilisée pour désigner les peintres et la peinture dans un style également qui était un style neuf, mais qui peut-être pouvait sembler un style un petit peu trop coloré pour les tenants de la peinture orthodoxe. Ce qui fait que les peintres de l'école de Shanghai ont dû gagner leurs lettres de noblesse, et c'est seulement vers 1920 qu'on a commencé à utiliser ce terme d'une manière très positive.
Alors, d'où vient cette collection que vous présentez actuellement au musée Cernouski et comment s'est-elle constituée ?
Alors, cette collection, elle provient intégralement du musée de Shanghai, donc le grand musée qui se situe sur la place du peuple à Shanghai. Elle a été constituée principalement pendant la deuxième moitié du XXe siècle par les conservateurs du musée de Shanghai et grâce à la générosité de grand collectionneur de cette ville.
Quel portrait de la Chine du 19e siècle peut-on voir à travers les œuvres de l'école de Shanghai ?
Alors, si l'on veut lire l'histoire de la Chine du 19e siècle, il peut sembler d'abord délicat. On s'attendrait à trouver dans les peintures un témoignage peut-être des conflits militaires ou de la déstabilisation sociale que la Chine a connue à cette époque. Et on peut être surpris de voir dans notre exposition, eh bien, ma foi, de paysages sublimes des montagnes de Chine, des fleurs qui sont colorées et d'une fraîcheur qui évoque plutôt le printemps que une saison plus difficile. C'est là un paradoxe, alors que ces artistes ont été souvent des errants qui ont perdu parfois leur famille dans les événements de cette époque, en particulier au moment de la rébellion des Taiping qui ravage cette région du centre-sud de la Chine. Alors, on ne trouvera pas une image des conflits, mais par contre, on trouve un reflet de la modernisation et de l'ouverture, en particulier de l'ouverture à l'Occident. On peut la lire à plusieurs niveaux, mais le plus facile est peut-être de la lire au niveau de l'interprétation du portrait, qui devient très réaliste. Il existait un portrait très précis dans la tradition chinoise, mais désormais, on va représenter les gens avec ce réalisme, non seulement dans la physionomie, mais aussi dans l'anatomie. Et cela est sans doute lié à toute cette culture cosmopolite de Shanghai, au fait même que non seulement les artistes avaient accès à des gravures, à des peintures occidentales et aussi japonaises, mais aussi il y avait implanté à Shanghai, par l'intermédiaire d'une mission jésuite, eh bien, il y avait des ateliers où l'on peignait à l'huile et où l'on gravait dans la tradition occidentale.
Alors, l'école de Shanghai puise ses racines au plus profond de l'histoire de l'art chinois, finalement.
Oui, la ville de Shanghai prend son essor seulement en 1840, au moment où, à la suite de la guerre de l'opium, elle devient l'un des 5 grands ports ouverts de Chine. Mais elle puise beaucoup plus profond dans la culture chinoise, en particulier puisque elle se trouve au cœur d'une région de culture très ancienne, qui est la région du Jiangnan, la région donc qui se situe à proximité du grand fleuve Changjiang et qui regroupe les provinces du Jiangsu, de l'Anhui et du Zhejiang. Et toute cette grande tradition de peintres qui remonte au moins jusqu'au XVe siècle avec l'école de Wu à Suzhou, qui a été également formidable au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle les excentriques de Yangzhou, toutes ces traditions qui ont donné lieu à des communautés d'artistes très importantes, eh bien, elles vont ensuite accoucher de cette école de Shanghai, un accouchement dans la douleur, puisque les grandes villes de Yangzhou ou de Suzhou vont être le théâtre des conflits militaires, mais accouchement tout de même, puisqu'il va y avoir un grand renouvellement de la peinture, par le réalisme, je l'ai déjà dit, mais aussi par un primat de la couleur, jusqu'alors inconnu dans la tradition chinoise.
Mais alors que s'est-il passé au XIXe siècle, est-ce peut-être les guerres, pour que la tradition des peintres lettrés disparaisse?
Alors, les thèmes pratiqués par les lettrés dans la peinture ne vont pas disparaître. Ils sont encore illustrés par les peintres de Shanghai. On retrouve les grands genres dès la première salle de notre exposition, bien vivants, le genre de la peinture de paysages, de personnages ou encore de fleurs et d'oiseaux. Les genres de la peinture lettrée sont bien vivants, mais effectivement, les conditions sociales dans lesquelles la peinture lettrée avaient pu vivre ne vont pas se poursuivre. Par exemple, la tradition de l'artiste en résidence qui est protégé par un collectionneur qui lui ouvre les portes de sa résidence et de sa collection pendant plusieurs années, cela va disparaître assez rapidement à la fin du XIXe siècle. Et les artistes qui arrivent à Shanghai sont désormais livrés à ce qui est encore ce qu'on pourrait appeler un marché de l'art en formation, un marché de l'art émergent, dont les acteurs principaux sont des boutiques qui vendent du papier à lettres et des éventails, et qui jouent un peu le rôle de nos galeries d'art actuelles. Et bientôt, un petit peu comme un contrepoint, il va y avoir également des associations d'artistes avec de vrais statuts qui s'inspirent un petit peu des guildes commerciales où les artistes se regroupent pour fixer le prix de leurs œuvres, pour les vendre, pour exposer ensemble. Et évidemment, vous le voyez, cela est complètement en rupture vis-à-vis des modèles plus traditionnels de mécénat.
Mais comment ces artistes, donc qui changent un petit peu, qui bougent les lignes, sont-ils perçus par leurs contemporains ?
Alors, les contemporains ont certainement accueilli le travail des artistes de l'école de Shanghai d'une manière contrastée. Tout d'abord, le terme de Haipai était utilisé de manière péjorative par des personnes qui avaient sans doute une idée très précise de ce que la peinture devait être dans le courant orthodoxe avec des références au grand maître de la fin des Ming, Dong Qichang. Mais il y avait aussi toutes sortes de nouveaux amateurs parmi ces nouveaux arrivants de Shanghai, ceux qui vont faire la fortune de la ville, des commerçants, parfois des financiers, qui eux au contraire vont s'intéresser à cette peinture colorée, dont les références littéraires ne sont peut-être plus du côté de la poésie, mais plutôt du roman ou du théâtre. Et donc on voit qu'il y a ici une forme de culture peut-être plus populaire, en tout cas plus mélangée, qui mélange des références savantes et des références plus populaires. Et ce sont ces amateurs qui vont petit à petit faire la fortune des peintres de l'école de Shanghai.
Les développements techniques en ce qui concerne la presse, comme la photolithographie, ont été déterminants dans l'évolution de l'esthétique qui s'est développée justement à Shanghai à la fin du XIXe siècle.
Oui, il est certain que si les artistes ont fait le choix de continuer à créer toujours au moyen de l'encre, sur soie ou sur papier. En revanche, ils vivent dans un univers où la culture visuelle est tout à fait nouvelle. On a évidemment cette technique de la photolithographie avec ses journaux illustrés. La photographie est également très présente. Et cela va modifier la manière dont ces artistes voient le monde, conçoit notamment le portrait, je l'ai déjà évoqué, avec, on le voit, une manière, par exemple, décrire les ombres et les lumières, qui doit beaucoup à la photographie. Et puis aussi des aspects peut-être plus inattendus qui ont été révélés par certains auteurs du catalogue. Paris à cette époque était déjà pas envahi, mais en tout cas l'estampe japonaise y circulait beaucoup, et l'estampe japonaise circulait aussi beaucoup à Shanghai, et on a des influences comme ça inattendues de l'estampe japonaise sur les artistes de l'école de Shanghai, comme Zhen Bonien, qui va pratiquer une peinture de personnages très 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 enlevée, très vivante, presque violente parfois, et qui justement s'inspire de l'estampe japonaise.
Quand et où a lieu la première exposition de peinture en Chine ?
Alors, l'exposition publique de peinture n'était pas une pratique ancienne en Chine. Souvent, ces peintures, elles étaient vues dans un cadre privé, et parler d'exposition est un peu trompeur, puisque souvent, il s'agissait juste d'une contemplation de quelques minutes, l'œuvre était déroulée, puis à nouveau réenroulée. Donc, en Chine, c'est seulement au début du XXe siècle que l'exposition apparaît, et l'exposition d'art en particulier à Shanghai à partir des années 1910. Donc, c'est seulement pour l'un des derniers grands maîtres présentés à notre exposition, Wu Changshuo, que nous avons des documents, des photographies qui présentent une exposition de ses œuvres, une exposition publique. Et cela va bien sûr changer complètement la donne, le rapport au public. Et cela va être aussi l'œuvre de ces associations d'artistes que j'ai évoquées tout à l'heure.
Alors, en visitant cette exposition, on se rend compte que les stèles anciennes et les sceaux ont eu une influence stylistique importante sur ces peintres.
Oui, il ne faut pas négliger toutes les influences qui proviennent de la tradition chinoise, y compris les influences qui n'appartiennent pas à la technique picturale. À cette époque, on voit que le trait de pinceau lui-même va être complètement modifié. On va passer d'un trait de pinceau exquis, délicat, fin, à un trait de pinceau beaucoup plus vigoureux, d'une ampleur très importante, qui nécessite même le grand format. Et cette petite révolution, puisque le trait de pinceau est au cœur du travail du peintre, eh bien, il a lieu en partie grâce à l'influence de la calligraphie et grâce à l'influence de tous les modèles calligraphiques anciens, fragments de stèles, inscriptions sur bronze, qui viennent de la plus haute antiquité chinoise et que certains auteurs ont considéré comme finalement une forme de primitivisme chinois, ce que les artistes modernes en Occident ont parfois été chercher dans des traditions culturelles autres, comme l'art africain. Eh bien, les peintres de l'école de Shanghai vont le chercher aux origines de la culture chinoise dans tous ces témoignages archéologiques.
Alors, comment se sont formés ces peintres, finalement ? On n'en a pas encore parlé.
Alors, les peintres, ils se forment tout de même dans un cadre assez traditionnel, qui est la relation de maître à disciple. Souvent, pour le cas particulier des peintres de l'école de Shanghai, qui étaient issus, pour la majorité d'entre eux, d'un milieu modeste, il s'agit d'un apprentissage de la part de tout petits maîtres, presque des artisans de la peinture, qui pratiquaient par exemple la peinture de portraits, la peinture de portraits qu'on utilisait pour les portraits d'ancêtres dans un contexte funéraire, mais qui était un genre assez précis. Je pense par exemple au peintre Zhen Xiong, qui occupe la deuxième salle de l'exposition. Il s'est enfui comme ça très tôt de chez son maître, qui lui imposait des règles qui ne lui convenaient pas, et il s'est choisi un maître idéal, qui était un maître mort depuis 200 ans, Chen Hongshou.
Quelles sont les principales sources d'inspiration des peintres de l'école de Shanghai ?
Les peintres de l'école de Shanghai vont puiser leur inspiration à des sources très différentes. Il y a d'abord le passé, j'en ai déjà parlé. Il y a ensuite la nature avec la description très précise de très nombreuses fleurs qui ont parfois une valeur symbolique. Et cette omniprésence justement des fleurs et des fruits et des saisons dans la peinture des maîtres de l'école de Shanghai, on la doit aussi à une grande innovation technique qui est l'utilisation de la couleur pour peindre directement sans trait de contour. Alors cela est très nouveau puisque en Chine, toujours dans les traités anciens de peinture, vous avez chapitre 1, je caricature, mais chapitre 1, le trait de pinceau, chapitre 2, l'application des couleurs. Et là, d'un seul coup, les artistes de l'école de Shanghai vont aller directement au chapitre 2 et dépeindre directement ces fleurs avec des couleurs.
Et c'est ça qui fait leur modernité, donc, de sauter le chapitre 1.
D'avoir sauté le chapitre 1, c'est ce qui fait leur modernité. Ça peut sembler comme ça une toute petite chose de sauter le chapitre 1, mais je pense que les impressionnistes, par exemple, en Occident, ont fait aussi ce genre de choses, sauter quelques chapitres.
Quelles sont les figures marquantes de cette école ?
L'école de Shanghai, ou comme l'appelait un texte du début du XXe siècle, la forêt des pinceaux de Shanghai, est composée d'un très grand nombre d'artistes. Mais il se dégage quelques figures extrêmement marquantes, qu'on pourrait appeler les maîtres de l'école de Shanghai, et auxquelles des espaces ont été dédiés dans notre exposition. Alors ils ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. L'un des tout premiers d'entre eux, c'est Jun Xiong, un artiste immense, disparu prématurément, mais qui, aussi bien dans sa peinture de personnages que dans sa peinture de paysages, et nous avons ici, je pense, le plus beau paysage qu'il ait jamais peint, une grande œuvre de 7 mètres de long, où la révolution de la couleur est vraiment à l'œuvre. C'est une œuvre extraordinaire. En même temps, cette introduction d'une couleur à la fois extrêmement brillante, mais aussi extrêmement nuancée, on la retrouve aussi dans sa peinture de personnages. Je pense à la très belle Dame de la Xiang qu'on peut voir dans l'exposition. Donc nous avons déjà Jun Xiong qui ouvre la voie. Il sera suivi par d'autres personnalités, comme Jean Bonnien, qui à la fin du XIXe siècle reprend le flambeau et modifie à son tour la peinture de personnages en la faisant plus réaliste et aussi en ouvrant très largement le type des sujets représentés. Outre Jun Xiong et Jean Bonnien, nous trouvons aussi Zhao Zhetian, un maître qui justement est celui qui a réussi à voler, en quelque sorte, à voler à l'esprit des stèles antiques une forme de rudesse primitive qui va renouveler d'abord la calligraphie et ensuite la peinture. Donc il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'école de Shanghai. À côté de ça, nous avons aussi des personnalités uniques, comme le peintre moine Sugu, qui, je crois, est une révélation pour toutes les personnes qui sont amenées à découvrir son œuvre. Il est à la fois unique par son destin, il était un officier qui un jour a décidé de se faire moine, qui a ensuite erré entre Suzhou et Shanghai, qui est à la fois donc un peu un peintre lettré, mais aussi un professionnel de la peinture qui vendait ses œuvres, et dont le trait de pinceau sec, brisé, nous apparaît à nous, à l'orée du XXIe siècle, d'une fulgurante modernité.
Oui, c'est effectivement, à mon sens, le seul qui fait extrêmement contemporain. Éric Lefebvre, merci.